Il existe des guerres invisibles, celles que l'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas. Et justement, mon invité du jour, Thomas Gomard, qui a écrit Les guerres invisibles, c'est le directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. C'est finalement une personne qui fait de la géopolitique, qui conseille les hommes d'État, les politiques de manière générale, en France mais aussi à l'étranger, sur la manière de gérer les relations entre les pays. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant, voire passionnant, de comprendre les dynamiques entre la Chine, entre l'Asie de manière générale, l'Afrique, évidemment le continent africain, le continent américain, les États-Unis, l'Europe. Comment ça fonctionne tout ça? Il a une manière de raconter le monde, de voir le monde qui peut être différente de la vôtre, mais en même temps qui est réelle et qui est celle de ceux qui sont au pouvoir, ceux et celles qui sont au pouvoir d'ailleurs. Il a écrit l'année dernière un bouquin qui s'appelle L'affolement du monde, pour lequel il a gagné le prix du meilleur livre de géopolitique. C'est quelqu'un d'extrêmement passionnant et j'espère que la conversation va vraiment vous intéresser parce qu'elle est, profonde. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour Thomas.
Bonjour Grégory.
On va parler de géopolitique et je crois que la première question qui peut sembler un peu simple et en même temps qui me semble essentielle, c'est de redéfinir ce que c'est que la géopolitique.
Ah, c'est une question qui est évidemment essentielle mais pas si simple parce que c'est une notion qui ne fait pas... Qui est, comment dirais-je, à l'origine de plusieurs débats universitaires. Mais la définition la plus simple, c'est peut-être celle de Thierry de Montbrial, qui définit la géopolitique comme l'idéologie relative au territoire.
D'accord.
Et en ce sens, la géopolitique se distingue de la politique internationale, qui peut se définir comme ce qui relève de l'activité quotidienne des diplomates et des militaires. Dans la politique internationale, si on continue la déclinaison, il y a ce qui relève de la diplomatie à proprement parler et ce qui va relever ensuite de l'activité militaire, etc. On peut décliner ainsi, mais l'idée de la géopolitique, c'est que ça relève fondamentalement des représentations spatiales.
Et justement, dans votre livre, donc Guerre invisible, vous faites mention des guerres mondiales en disant finalement, ces guerres mondiales, elles sont mondiales principalement pour l'Europe, pour les États-Unis, mais finalement en Asie, même s'il y a eu évidemment le Japon, finalement c'est pas vraiment mondial. C'est mondial en étant ethnocentré, pas ethnocentré, mais plutôt européanocentré. Est-ce que c'est vraiment ça ce qui s'est passé? C'est-à-dire que finalement la réalité de l'Asie à ce moment-là de l'histoire, c'est pas les guerres mondiales?
Alors, c'est pas tout à fait ça que j'explique dans le livre, c'est-à-dire que la réalité du conflit pour les pays asiatiques, Japon, Chine, Philippines, Malaisie, etc., elle a été extrêmement réelle. Bon, et que, en fait, la particularité de la Seconde Guerre mondiale, c'est précisément de cette tenue à la fois sur l'espace, je dirais, atlantique et sur l'espace pacifique. Et en particulier, ça a une dimension extrêmement importante en termes naval, le fait que c'est une guerre qui s'est tenue sur mer, dans les airs, sur terre, avec en particulier sur terre l'affrontement frontal entre l'Allemagne et l'URSS. Donc, si vous voulez, c'était pas du tout de dire que les guerres mondiales ne concernaient pas les pays asiatiques. Au contraire, ils sont des acteurs de tout premier plan, et la première guerre après la Seconde Guerre mondiale où on est passé à deux doigts de l'affrontement nucléaire, c'est précisément la guerre de Corée. Et d'ailleurs, je pense que nous sommes aujourd'hui dans le cycle stratégique ouvert par la guerre de Corée en 1950. On y reviendra peut-être. Ce que j'essayais de dire dans le livre, c'est que nous, Européens, notre construction chronologique, notre manière de raconter l'histoire, notre récit, au fond, ce à quoi nous nous rattachons, est effectivement très lié à la Première et à la Seconde Guerre mondiale, alors que pour les pays asiatiques, sans encore une fois diminuer l'importance que la Seconde Guerre mondiale a pu avoir, ce qui est beaucoup plus important dans le récit qu'ils font aujourd'hui du XXe siècle, c'est le processus de décolonisation. C'est ça que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est-à-dire que là où les Occidentaux ont une lecture basée sur les deux guerres mondiales dont ils sont sortis vainqueurs, enfin pour les Américains et les Britanniques, Les Asiatiques, au sens très large, mais là aussi, il y a des différences nationales très fortes selon que l'on parle au Japon ou à la Chine ou à d'autres acteurs régionaux. Pour ces acteurs-là, la date peut-être qui fait démarrer le XXe siècle, c'est 1905, lorsque la flotte japonaise détruit la flotte russe à Tsushima. Mmh. Voilà. Et c'est, au fond, le point de départ d'un processus de décolonisation par rapport aux puissances occidentales.
Et vous parlez, vous, d'un éveil politique de l'Asie. C'est ça, en fait. C'est vraiment de ça qu'il s'agit.
Oui, voilà, c'est en ce sens. Mmh. Alors, je parle, c'est d'ailleurs pas simplement l'Asie, c'est aussi les pays d'Orient. Mmh. Donc, tout ça, c'est toute une historiographie, si vous voulez, qui s'est développée au cours des 3-4 dernières décennies. Et qui, effectivement, on parle d'histoire globale ou d'histoire connectée selon les termes. Selon les écoles, tout ça en fait doit aboutir effectivement, pour rejoindre votre question de départ, à une vision moins européano-centrée des questions internationales. Et de fait, nous sommes pleinement dans ce mouvement. Et Guerres invisibles, l'objectif de ce livre est précisément d'expliquer aux lecteurs en langue française pour l'instant ce déplacement du centre de gravité du système monde vers l'Asie-Pacifique.
Et oui, et en fait vous sortez ce livre en 2021, juste après d'ailleurs, on est en plein dedans, la crise du Covid. Qu'est-ce que ça nous enseigne, cette crise du Covid, mais aussi l'ampleur de la réponse qu'on a donnée à cette crise? Moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte de combat entre les pays sur qui aura moins de morts, qui va réussir à juguler le mieux la crise, comme c'était quelque part une sorte de compétition entre les pays, aussi une compétition contre la maladie, bien sûr, mais j'ai cette sensation, mais peut-être que je me trompe complètement.
Bon, si vous voulez, le problème que l'on a pour analyser cette crise sanitaire, c'est que nous sortons d'un récit de la mondialisation qui a consisté en particulier en Europe et aux États-Unis, très charrié par les élites économiques, les business schools, etc. L'idée sur laquelle, la mondialisation, c'était l'interpénétration des sociétés civiles, d'une part, et la croissance inexorable ou l'accentuation inexorable des échanges économiques et financiers, pour faire très simple. Mmh, mmh. Et ça a été beaucoup enseigné comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites des relations internationales comme on le fait à l'IFRI, on commence par toujours dire, le système international, c'est de la coopération, mais c'est aussi de la compétition et de la confrontation. C'est-à-dire que la manière dont on a présenté la mondialisation dite « heureuse », avec tous les guillemets qui s'imposent, est une lecture qui s'est très peu intéressée aux questions stratégiques de rapport de force et de rapport de confrontation. Or, et c'est la thèse du livre, je pense qu'il y a eu là une sorte d'occultation intellectuelle et qu'en réalité, la compétition des puissances n'a jamais cessé, hein, j'ai cette formule dans le livre, de jour comme de nuit. Et donc, si vous voulez, il y a une propension chez les Européens, pour des raisons très compréhensibles sur lesquelles on va probablement revenir, de poser les problèmes en termes de biens communs. Parce que dégradation environnementale notamment, et il y a en même temps des logiques de puissance qui sont puissamment à l'œuvre. C'est-à-dire qu'une autre manière de le dire, si vous voulez, c'est que pendant les années, je dirais 2000-2010, les Européens ont voulu voir les marchés émergents, mais n'ont pas voulu voir les puissances émergentes.
Ouais, complètement. Voilà. Mais peut-être qu'on était trop centré aussi à ce moment-là.
Et donc, ouais, c'est pas forcément d'être auto-centré, c'est-à-dire que c'était une lecture de l'activité capitaliste particulière. Et je pense que de ce point de vue-là, il faut rappeler la formule de Braudel, ce n'est pas le capitalisme qui crée le rapport de force, mais le capitalisme se love dans un rapport de force de nature stratégique établi. Bon, et donc là aussi, dans le livre, j'ai... des analyses un peu de consistant à mettre les choses en perspective sur le plan historique, notamment sur l'étiage que représentait jadis, c'est-à-dire en remontant jusqu'au XVe siècle, l'économie chinoise. Alors, tout ça est un long détour pour répondre à votre question. La crise sanitaire, pour moi, est une crise technosanitaire, dans le sens où elle est sanitaire dans ses causes et technologique dans ses conséquences principales. Ce qui la caractérise à mes yeux, c'est effectivement le caractère inédit de l'amplitude des mesures prises par des autorités publiques pour lutter contre la pandémie par rapport au nombre de morts. Alors, c'est pas pour dire, ce nombre était évidemment beaucoup plus important si ces mesures n'avaient pas été prises, mais c'est quelque chose de très frappant sur le plan historique. Premier point. Et le deuxième point, c'est aussi le décalage qui existe entre la matérialité des moyens nécessaires pour la combattre, les masques, les vaccins, les lits d'hôpitaux, etc., et l'immatérialité des solutions proposées pour la traverser sur le plan économique et politique. Le télétravail, etc. Bon. Et ça, ça me semble en fait ouvrir une discussion sur le fait que cette crise sanitaire est un catalyseur, c'est-à-dire que là, on l'a vraiment beaucoup vu à l'IFRIS, toutes les choses que nous avions identifiées avant la crise se sont trouvées accélérées, et en particulier dans la redistribution de puissance. C'est-à-dire que c'est au fond une crise qui alimente le récit d'une prise de leadership par la Chine sur les affaires mondiales, d'une efficacité qui serait propre aux pays asiatiques par rapport aux pays occidentaux. Au fond, cette crise permet, à mon sens, une forme d'inoculation des valeurs asiatiques par voie technologique.
Hyper intéressant. Et alors justement, on va évidemment parler de la Chine, des États-Unis. Et bon, ben, on va forcément parler de l'Europe, puisqu'on y vit, qu'on parle français et qu'on est en France. Effectivement, moi, j'ai vraiment envie de faire un focus sur l'écologie en me disant, en fait, il y a ce débat, et je pense qu'on l'aura l'année prochaine aux élections présidentielles, de est-ce que vraiment, en France, on peut avoir un impact, alors déjà au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif, national, voire européen, si les États-Unis et la Chine ne font pas le mouvement. Et de ce que je comprends dans le livre, j'ai la sensation que la Chine n'est pas vraiment dans ce mouvement en ce moment, c'est-à-dire qu'ils pourraient, enfin c'est eux qui sont quasiment les seuls d'ailleurs à produire des panneaux solaires, enfin ils ont très clairement le leadership mondial, et en même temps ils sont en pleine croissance et ils n'ont pas forcément l'intention de s'arrêter tout de suite. Donc j'aimerais bien comprendre, vous, comment vous voyez les choses, parce que vous faites un énorme focus sur l'écologie et en même temps c'est vraiment un sujet qui moi m'intéresse beaucoup, comment vous voyez les choses de ce point de vue-là?
Alors il y a plusieurs niveaux de réponse. Premier niveau de réponse dans le livre, si vous voulez, moi je considère que la Chine et les États-Unis, qui représentent, vous l'avez rappelé, plus de 45% des émissions mondiales de CO2, subordonnent aujourd'hui leur politique climatique et leur politique numérique à leur rivalité stratégique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enjeu, c'est qui contrôle le thermostat mondial. La deuxième chose, le paradoxe, si vous voulez, c'est que je pense qu'il y a un lien très direct entre la crainte de l'hiver nucléaire pendant la guerre froide et celle de l'effondrement dans laquelle on baigne. Cette idée sur laquelle, enfin, toute la collapsologie, pour faire très simple. Ce lien, il est paradoxal. Pourquoi ? Parce que c'est par les tests nucléaires, il y a eu 2000 tests nucléaires au cours de la guerre froide et après, tout ça a généré la mise en place de multiples capteurs, je n'ai pas le temps de décrire, pour en fait suivre ce que faisait l'autre. Et que c'est par ces capteurs que l'on a pris conscience de la dégradation environnementale. Donc ça, c'est un paradoxe assez vertigineux quand on y réfléchit, et qui conduit ensuite à répondre à votre question sur le quid pour l'Europe. Alors, ayant dit cela, c'est évidemment pas un prétexte pour ne rien faire. C'est-à-dire, je pense que l'aspiration et la prise de conscience collective de cette dégradation environnementale est extrêmement répandue, que le problème plus fondamental que cette prise de conscience provoque est le suivant, c'est que la doxa, très véhiculée là aussi par des sources sur lesquelles on pourrait, des foyers sur lesquels on pourrait revenir, mais on est quand même dans une doxa consistant à dire nous sommes face à une dégradation environnementale et nous sommes face à une propagation technologique. Et avec l'idée selon laquelle la deuxième tendance va permettre de répondre à la première. À titre personnel, je n'en suis pas du tout convaincu pour une raison assez simple. C'est que nos capacités de transformation du réel sont très largement supérieures à nos capacités d'anticipation. Et que donc, il y a une sorte de, d'illusion à parler toujours d'innovation sans comprendre que le terme innovation est souvent un terme utilisé pour maintenir des systèmes en place. Et dernier point, lorsque vous allez au... Quand vous avez des discussions dans le cadre des think tanks, comme on peut le faire à l'IFRI, avec des collègues américains, des collègues chinois, la notion, si vous voulez, de sobriété ou même de limite de développement, alors il y a des milieux dans lesquels ça, évidemment, ça percole, mais en termes de politique, pour la Chine, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que ce que dit la Chine en permanence, c'est pourquoi allez-vous contraindre notre développement par l'environnement, alors que vous en avez bénéficié, vous, occidentaux, pendant deux siècles.
Bien sûr.
Et donc, ce qui est aussi très intéressant du côté chinois, c'est la dialectique très, très profonde qui existe entre un discours sur la civilisation écologique, des investissements, vous mentionniez les panneaux solaires, très massifs sur les technologies bas carbone, et en même temps, le fait d'avoir 3000 centrales à charbon et de prévoir d'en construire 2000 autres.
Comment on explique ça?
Pour une raison assez simple.
Enfin, que, moi, ça me...
C'est assez simple à comprendre. C'est assez simple à comprendre. C'est ça que les Européens ont du mal à comprendre. Ça va nous permettre d'aller ensuite vers l'Europe. C'est que les mix énergétiques, il y a une inertie qui reste forte. C'est-à-dire que quand vous avez 60% de votre mix, comme c'est le cas de la Chine, qui est au charbon, vous avez beau investir sur les énergies renouvelables, ça se fait pas du jour au lendemain, et surtout ce sont des investissements considérables avec des conséquences sociales elles aussi considérables qui font que vous pouvez pas changer ça. Voilà, l'horizon qui a été donné pour la neutralité carbone par la Chine, c'est 2060. Donc c'est
loin.
Ça montre que ce sont des choses qui ne peuvent pas se faire sur un claquement de doigts. Alors là, ce que ça veut dire aussi pour les Européens, si vous voulez, c'est que quand on regarde les choses dans les grandes masses, si on veut être un peu provocateur, et encore une fois, c'est pas du tout pour minimiser l'importance de ces enjeux environnementaux. Vous l'avez dit, j'y accorde un chapitre entier et ça traverse aussi le livre. Mais La question, c'est notamment celle du nucléaire en Europe. C'est-à-dire que, et en particulier pour la France, c'est-à-dire que je crois qu'il faut aussi rattacher ça à la crise des Gilets jaunes, par exemple, en France, c'est que nous faisons comme si nous avions une énergie qui allait rester abondante et bon marché, ce qui est aujourd'hui le cas avec le nucléaire. Et donc, en fait, il y a aussi quelque chose de très frappant, c'est de voir comment les Européens, pour des raisons en partie compréhensibles, se détournent du nucléaire, alors que c'est une énergie sur laquelle la technologie est désormais passée en Chine et en Russie, et sur laquelle réinvestissent les États-Unis. Donc, c'est un exemple, en fait, parmi d'autres, avec le nucléaire, pour montrer que les mix énergétiques ne peuvent être que diversifiés et évoluer sur la durée dans un contexte général de demande croissante d'énergie sur la simple fait démographique, si vous voulez, et limitation des énergies fossiles. Donc ça, c'est une équation extrêmement complexe pour l'ensemble de nos systèmes.
En fait, dans tout ce que vous dites, je vais rebondir. La première des remarques qu'on entend beaucoup, c'est si les États arrivent à se mettre d'accord et à dépenser autant d'argent contre une pandémie comme le Covid, pourquoi ils ne le font pas quand il s'agit d'écologie ? Donc ça, c'est la première chose. La seconde, c'est effectivement... on avait fait un mouvement vers le nucléaire dans les années 60-70 et on avait une avance technologique hyper forte. Et vous faites une critique, je crois, au début du livre en disant que en Europe, on préfère les questions sociétales, mais finalement, on répond pas vraiment. On a moins de pragmatisme peut-être que les États-Unis ou la Chine sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'on va combattre. Enfin, il y a beaucoup de gens qui combattent le nucléaire sans se rendre compte qu'en fait on a besoin d'énergie dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la question, c'est évidemment il faudrait réduire la consommation d'énergie, mais aujourd'hui le nucléaire ça reste encore la moins mauvaise source d'énergie, en tout cas qui est capable de délivrer l'énergie comme on en consomme aujourd'hui. Et ça, c'est aussi une question que les gens ont du mal à saisir, je crois.
Alors, sur le premier point, l'objectif du livre, c'est fondamentalement d'encourager les Européens à un travail d'anticipation et de dire, en fait, il faut penser ces questions-là indépendamment des calendriers électoraux 2022, 2027, 2032. Mmh. C'est-à-dire faire un effort intellectuel pour penser à l'échelle d'une, deux, voire trois générations. C'est évidemment beaucoup plus facile à dire qu'à faire. La deuxième chose, si vous voulez, c'est que les Européens, à mon avis, sont confrontés à deux problèmes spécifiques. Le premier, c'est un phénomène de rétrécissement de leur importance dans le monde, qui est d'abord démographique. C'est-à-dire que la population européenne, c'est 25% de la population mondiale au début du XXe siècle, c'est 7% aujourd'hui, et que c'est une population vieillissante. Le deuxième élément, c'est que les élites européennes continuent à croire que le reste du monde veut vivre comme elles. Et je pense que c'est une illusion. C'est-à-dire qu'on est aussi face à des phénomènes violents de récusation des valeurs universalistes, des valeurs slash des valeurs occidentales slash des valeurs européennes. Au fond, ce que le reste du monde critique vis-à-vis de la critique la plus forte, c'est l'hypocrisie qui est ressentie par le reste du monde dans le comportement des occidentaux, pour faire ultra simple. Mais ça, c'est des choses que je ressens, si vous voulez, très fortement lors de tous les déplacements, tous les échanges que l'on peut avoir dans le cadre de l'IFRI. Et puis la troisième chose, c'est que, ça me permet de revenir au point de départ de notre conversation, c'est qu'on a eu une vision, en fait, on a cru que la mondialisation allait se faire de manière kantienne, c'est-à-dire que le modèle européen était tellement magnifique, et je vais y revenir parce qu'il l'est en partie à mes yeux, mais qu'il allait faire école et qu'au fond, tout le monde allait vouloir suivre une mondialisation de type européen. Bon. Et ça nous a détourné du jeu très classique de puissance qui s'observe dans toutes les périodes historiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu voir, encore une fois, qu'il y a une compétition des puissances et que l'Union européenne n'est pas outillée pour être dans ce jeu de puissance, et en particulier dans ce jeu de puissance entre la Chine et les États-Unis. Donc le livre, en ce sens, si vous voulez, est aussi une volonté d'essayer de proposer une lecture réaliste de l'environnement international dans lequel se trouvent les Européens, et de sortir d'une forme un peu de catéchisme sur la vision du monde qu'ils ont pu porter. Alors ça, c'est l'aspect critique, si vous voulez, par rapport à une forme de naïveté européenne. L'aspect moins critique, c'est que je pense que la construction européenne est un prototype politique unique qui, même s'il est critiqué, est très suivi ailleurs dans le monde, c'est-à-dire processus d'intégration régionale, 70 ans, qui a permis 70 ans de paix entre pays européens. Donc un processus de long terme très, très difficile, etc. Mais qui est en réalité un horizon désormais, à mon sens, partagé entre pays européens, même si on passe par des difficultés, des crises, etc. Il suffit de voyager aussi pour se rendre compte que oui, il y a une spécificité européenne à travers le monde. Bon. Et donc, que cela justifie en soi une organisation qui aille au-delà de la simple organisation économique.
Et est-ce que alors je vais être très européen, très français pour le coup, mais est-ce que je me trompe? En fait, j'ai cette théorie, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, de me dire finalement l'Europe va rentrer dans une sobriété énergétique assez rapidement, plus rapidement que d'autres, puisque en fait on a assez peu de sources d'énergie en Europe. Enfin, techniquement, en tout cas, si on parle des énergies fossiles, il y a effectivement un peu de charbon, mais on n'a pas de... On a du gaz, bon, mais c'est en Russie, c'est pas vraiment en Europe. Enfin, ça dépend comment, où est-ce qu'on place la frontière, évidemment. On n'a pas de pétrole, pas vraiment. Donc, on risque de rentrer dans une sorte de sobriété énergétique. Et là où je suis français, européen, dans la manière dont vous le décriviez, c'est que j'ai la sensation que ça pourrait devenir un modèle pour les autres pays. C'est-à-dire qu'en fait, l'Europe va en premier lieu rentrer dans une sobriété énergétique avant même les autres, qui pourraient donner une sorte de modèle pour les États-Unis ou pour les autres pays, finalement, non?
Oui, alors ça, c'est effectivement l'idée... et le choix d'orientation politique par les Européens en termes de politique nationale, d'où leur engagement sur les accords de Paris. Mm-hmm. Tout ça effectivement est très compréhensible sur un plan intellectuel et sur un plan de positionnement politique. La limite de ce raisonnement, il est sur d'abord une très grande difficulté des Européens à harmoniser leur politique énergétique.
Mmh. On le voit avec l'Allemagne.
C'est-à-dire que la rupture par l'Allemagne du nucléaire a eu comme conséquence, pas immédiate, mais ensuite de relance de la production de charbon, par exemple. Et que donc on a des disparités fortes entre Européens et dans l'organisation industrielle qui en découle. Ce que vous dites sur le fait de ne pas avoir de ressources en propre, effectivement, épuisement du gaz, du pétrole en mer du Nord, c'est tout à fait important. Le problème, c'est que les Européens ont aussi raté les investissements sur les technologies bas carbone, sur le photovoltaïque. Mmh. il y a des succès en matière d'investissement sur le non renouvelable. Il y a des choses très très positives qui s'observent. La tendance est claire, c'est-à-dire de modifier le mix énergétique. Ce qui est quand même frappant, c'est la difficulté, et c'est pas on en a déjà parlé, donc c'est peut-être pas la peine d'y revenir, mais quand vous avez pas mal de think tanks qui travaillent là-dessus sur les conséquences géopolitiques du Green Deal. Mm-hmm. J'ai en tête un papier récent là de collègues, très bon papier, mais qui ne dit pas un mot sur le nucléaire. En France, on doit être à 70% de l'électricité produite qui vient du nucléaire. Donc ce sont pas des choses que l'on peut changer, encore une fois, sur un claquement de doigts ou en fonction d'une composition gouvernementale.
Complètement. Et ça prend du temps. Et en même temps, la tendance qu'on voit, qui est, j'ai l'association politique et pas forcément stratégique, c'est qu'on est en train de se désengager du nucléaire. Enfin, j'ai cette sensation-là, mais peut-être que je me trompe complètement, encore une fois.
C'est une question très complexe. C'est dans la mesure où vous avez eu, à mon avis, deux décisions concernant la France récente importantes. Mm-hmm. La première, c'est le fait d'aller vers un allongement d'exploitation des centrales existantes. Mm-hmm. Et la deuxième, c'est de réinvestir dans l'outil militaire nucléaire pour une ou deux générations. Bon. Les deux étant évidemment liés, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser la filière militaire nucléaire sans son pendant civil. Mm-hmm. Alors, ça pose ensuite des tas de questions sur les difficultés rencontrées par cette industrie nucléaire, Il y a l'effet aussi du niveau d'endettement. Il y a des questions économiques extrêmement lourdes. Mais en ce qui concerne la France, les décisions récentes, on va voir effectivement ce que vous mentionnez, comment ces questions seront abordées dans le cadre de la présidentielle. Mais ces décisions récentes ont un caractère structurant qui dépasse en principe les calendriers électoraux.
Et alors, si on reprend un petit peu de hauteur et qu'on regarde les mouvements internationaux, vous parlez du rapprochement des États-Unis avec l'Inde, l'Inde qui va dépasser en nombre d'habitants la Chine au bout d'un moment. On voit la Chine qui utilise ce que vous décrivez, la même technique finalement que les Portugais à l'époque, c'est-à-dire qu'en fait qu'il se déploie par les mers un peu partout. Ça serait quoi les solutions pour l'Europe qui ont raté le virage, et vous l'avez dit aussi de la problématique de la... Enfin non, vous ne l'avez pas dit, mais on va en parler de la problématique de la donnée et de toute cette data finalement qui part principalement dans les GAFA ou dans les BATX en Asie. Ça serait quoi les solutions aujourd'hui pour l'Europe en termes de mouvement stratégique, puisqu'on voit bien que et les États-Unis et la Chine sont vraiment en train de bouger très fort. Est-ce que c'est déjà perdu d'avance? Et dans ce cas-là, ça veut dire aussi stratégiquement peut-être une autre position. Enfin, j'aimerais bien comprendre votre avis là-dessus.
Bah, je pense, si vous voulez, qu'il y a... Je ne saurais pas le formuler trop nettement en termes politiques, mais moi, je vois deux grandes options. Il y a une forme d'option où, en gros, on assimile complètement... le discours de la collapsologie, et c'est une sorte de mise en œuvre très rapide, mais en fait plus subie qu'autre chose, d'une sobriété contrainte. Mmh. Et en réalité, je pense que là, il ne faut pas se tromper sur les aspirations de l'opinion, c'est-à-dire que notre jeunesse a beau défiler... pour expliquer que les aînés n'ont pas été sérieux dans la lutte contre le réchauffement climatique, je ne pense pas que notre jeunesse soit prête à renoncer à ses portables, à ses réseaux sociaux, qui sont ont eux-mêmes des conséquences en termes environnementaux invisibles, pour reprendre
le titre du livre.
l'adjectif du titre. Bon, et puis la deuxième option, qui est une option de... d'améliorer dans le sens d'une écologisation, mais sans renoncer à avoir un appareil productif performant. Mmh. Et donc d'être dans une logique de rester un des acteurs principaux du commerce international. Parce qu'en fait, il n'y a pas de richesse et donc de puissance sans commerce.
Bien sûr.
Donc, la première option est pour moi une sorte d'option sur une option de...
Une sorte de non-option.
Comme si l'Europe était un isolat qui, au fond, se refermerait, se verdirait en pensant que cela n'aurait pas de conséquences sur le rapport de force internationale. Mm-hmm. Je suis pas du tout convaincu que ce soit la tendance générale. La tendance générale, pour moi, elle est, si vous voulez, probablement sur des formes d'écologisation partagée, c'est-à-dire que tout le monde se rend bien compte que nous sommes liés, interdépendants les uns des autres, et que effectivement la dynamique des accords de Paris, que la dégradation environnementale dans ces trois grands registres, le dérèglement climatique d'une part, la baisse de la biodiversité d'autre part, les pollutions enfin... nécessite des réponses coordonnées, conjuguées. Ça, je pense que c'est quelque chose qui se répand, mais qui, pour moi, n'est pas exclusif aussi d'enjeux de puissance. Mmh. C'est-à-dire que on reste fondamentalement dans une logique de le système capitaliste. Il y a des patrons et puis il y a des gens qui sont pas patrons. Mmh. En termes globaux. Mmh, voilà. Mmh. Donc, pour les Européens, il y a un choix à faire de est-ce qu'ils restent dans la... est-ce que la partie coopération qui est très importante, est-ce qu'ils restent également dans la compétition? Et d'autre part, est-ce qu'ils envisagent de possibles confrontations et se préparent, sans souhaiter qu'elles adviennent, mais se préparent à cela? Et ça, c'est un choix... d'orientation majeure. Alors, moi, si vous voulez, quand je regarde les choses historiquement, j'ai pas du tout de doute sur le fait qu'il faut se préparer à la deuxième option.
Et c'est un point qui, moi, m'a beaucoup choqué, parce que c'est vrai que, ben, comme je suis né dans les années 70, forcément, j'ai pas connu vraiment de guerre. En tout cas, c'est vrai qu'en Europe, on a été épargné sur le domaine. Et du coup, vous parlez effectivement beaucoup d'armement et beaucoup de guerres militarisées, hein, en réalité. Et c'est assez perturbant, parce que on y pense pas vraiment, finalement. Quand on habite en France et que voilà, on n'a pas vraiment connu ça dans notre vie, dans l'absolu, quoi. On le voit dans les journaux, dans les médias, etc., dans d'autres pays. Mais pour nous, en tout cas, ça nous semble extrêmement loin. Et vous parlez beaucoup d'armement et de réarmement.
Oui, parce que je considère qu'il faut réarmer.
Ouais, vous pourriez expliquer pourquoi, et aussi la France a déjà une position enfin, c'est pas complètement désarmé par rapport à d'autres pays en Europe, mais j'aimerais bien comprendre et que vous expliquiez pourquoi et votre vision sur le sujet.
Alors. Bon, d'abord, il y a plusieurs choses. C'est que, si vous voulez, fondamentalement, nous, en France, nous avons un système constitutionnel de nature politico-militaire. Mmh. C'est-à-dire que la matrice de la Ve République, c'est une matrice politico-militaire. La Ve République a été construite par le général de Gaulle pour éviter que ne se reproduise juin 40. Et que par ailleurs, vous avez un lien très fort entre, enfin un lien pas très fort, un lien je dirais consubstantiel entre l'élection au suffrage universel du président de la République 1962 et l'acquisition de l'arme nucléaire. Mmh. Bon, donc ça, cette matrice a tendance à être oubliée, mais elle est tout à fait décisive dans le cas français et elle explique aussi beaucoup d'incompréhension. Dans le cadre de la relation franco-allemande. Pourquoi ? Parce que la République fédérale d'Allemagne a été construite précisément avec une constitution pour désarmer et pour intégrer l'effort de défense dans le cadre otanien. Donc ça, si vous voulez, ce sont des structurations stratégiques qu'il faut rappeler et qui sont souvent mal comprises. Mmh. Ensuite, en tendance, les Européens ont commencé à désarmer, c'est-à-dire à diminuer par rapport à leur PIB leurs dépenses militaires depuis le début des années 70. C'est-à-dire qu'au début des années 70, on est à peu près à entre 3,5 et 4% de PIB de dépenses militaires et on a atterri à, en gros, les pays européens sont aujourd'hui entre 1,1 et 1,6% de PIB de dépenses militaires. Dans le même temps, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que cette décrue a été accélérée par ce qu'on a appelé les dividendes de la paix. C'est-à-dire qu'après 91, au fond, on a dit bah, tout ça ne sert pas à grand-chose d'avoir des armées dites de masse, etc., puisque la perspective d'un choc avec l'URSS n'existe plus. Donc, on a cessé, si vous voulez, pendant les années 90, qui correspondent au point haut de la mondialisation, enfin de l'ouverture, etc., financière des marchés, et en particulier de la Chine, la dérégulation aux États-Unis, etc., et en Europe, on a cessé de toucher les dividendes de la paix. Mais on s'est dévalué stratégiquement avec, troisième repère chronologique, 2001. 2001, évidemment, les États-Unis repartent dans une augmentation de leurs dépenses militaires. Et les Européens continuent à diminuer leurs dépenses militaires, et en France en particulier. Sauf que pendant ce temps-là, si vous voulez, ailleurs dans le monde, et surtout après 2001, on a augmenté extrêmement significativement les dépenses militaires. Et que la Chine, qui devait représenter au début des années 70 à peu près 1% de la dépense militaire mondiale, est aujourd'hui à plus de 14% de la dépense militaire mondiale. Les États-Unis doivent être à 35%. Vous avez une dépense militaire qui est de l'ordre de 700 milliards de dollars par les États-Unis par an, pour la Chine de 250 milliards, qui croît entre 8 et 10% tous les ans depuis 30 ans. Et que ensuite vous avez l'Arabie Saoudite, l'Inde, la Russie, et ensuite des pays européens, en premier lieu Royaume-Uni et France. Enfin, ça dépend ce qu'on calcule. Bon. Donc, par rapport, si vous voulez, on doit avoir une dépense militaire annuelle mondiale qui doit être de l'ordre de 1700 milliards de dollars. Les Européens, en fait, contribuent à dépenser, mais beaucoup moins que dans d'autres régions du monde.
Okay. Voilà.
Et donc ça pose un problème assez fondamental, c'est que pourquoi ils ont fait ça, c'est que là, et c'est tout le débat transatlantique qui est bien antérieur à Donald Trump, hein, c'est que la plupart des pays européens, et là, de ce point de vue-là, il y a une exception française, et également une exception turque d'ailleurs, la très grande majorité des pays européens considèrent que leur garantie de sécurité, c'est l'OTAN.
Effectivement.
Et l'article 5. Et que donc, ils peuvent tout à fait se permettre de dépenser 1,4% de PIB de dépenses militaires parce qu'ils sont dans l'OTAN. Et ils se retrouvent aujourd'hui dans une situation où leur environnement immédiat se dégrade très rapidement, en particulier en Méditerranée, sur les flancs Est également, et des États-Unis qui, par leur comportement, font que la solidité de l'article 5 de l'OTAN n'apparaît pas forcément évidente à tout le monde. Et la réponse française, quand vous dites oui, je suis né dans les années 70 et j'ai toujours eu une impression de paix, c'est très intéressant comme remarque. C'est-à-dire que vous tenez ça pour acquis. Voilà. C'est quelque chose d'acquis pour tous nos contemporains, c'est acquis. En réalité, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que rien n'est acquis en matière de politique internationale. Alors, je vais essayer de développer ça en vous donnant le chiffre suivant. Vous avez un monument aux morts en opération extérieure à Javel, qui a été inauguré en novembre 2019. Et lors de son inauguration, il y avait 569 noms de mémoire de militaires français tués en opération depuis 1963, donc depuis la fin des guerres coloniales. Ça veut dire qu'au fond, nous avons pris l'habitude, et c'est une prouesse en soi, d'assurer notre sécurité extérieure avec 10 morts par an. Et là aussi, si vous faites une perspective historique, l'histoire de la France, c'est 1000 morts par jour pendant la Première Guerre mondiale, c'est 100 morts par jour pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est 10 morts par jour pendant les guerres coloniales. Et donc, nous avons pris, si vous voulez, nous tenons ça pour acquis. Ce qui, encore une fois, est quelque chose de très remarquable dans ce que mais ça ne vient pas de nulle part, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est parce que comment dirais-je, les gens sont devenus plus vertueux, etc. Pas du tout, c'est une construction et une organisation qui permettent cela. Maintenant, regardez ce qu'ont provoqué dans l'évolution de notre droit 250 morts, enfin 265 je crois maintenant, depuis 2015 avec les attaques terroristes sur notre territoire. Le fait que nous sommes passés au cours des dernières années d'un état d'urgence sécuritaire lié aux attaques terroristes à un état d'urgence sanitaire lié à la pandémie. Donc nous sommes dans des registres désormais de mesures inhabituelles d'état d'urgence. Et c'est toute la transformation, c'est pour avec toute la tension et toute la reconnaissance qu'on leur doit, c'est 260 morts civiles. Mais voyez mon point, c'est-à-dire que ça provoquerait quoi si on changeait d'unité de mesure, ce qui est pas du tout un scénario impossible. C'est-à-dire que si c'était pas je sais pas, si on rajoutait un zéro par exemple. Vous voyez très bien qu'en fait, la violence politique, la conflictualité reste, à mon sens, décisive pour des organisations politiques comme la nôtre. Raymond Aron distinguait ce qu'il appelait la conduite économique, qui est au fond assez simple, c'est celle des entreprises, au sens elle est simple, au sens où il faut servir les actionnaires et les parties prenantes. Bon, c'est très complexe en soi, mais la finalité est assez simple à comprendre. Bien sûr. La conduite politico-stratégique, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que c'est une conduite qui est toujours, pour reprendre la formule de Raymond Aron, à l'ombre de la guerre. Et donc, le propre du politique, c'est d'avoir ces deux conduites. Et ce que j'essaie d'expliquer dans Guerres invisibles, c'est de savoir les conjuguer dans le cadre d'une grande stratégie. C'est-à-dire, une grande stratégie, c'est quoi ? c'est de maintenir, de se doter des moyens matériels, des capacités morales pour maintenir un état de paix, mais d'être prêt à emporter la guerre si elle advenait.
Bien sûr.
Et la grande différence entre l'Europe, et à mon sens, et les autres régions, les autres puissances, je n'allais pas dire les autres régions du monde parce qu'il y a une mosaïque en fait qui mériterait d'être vue de manière beaucoup plus fine. Mais par rapport à la Chine et aux États-Unis en premier lieu, ou à des acteurs comme la Turquie, comme la Russie, à certains égards comme l'Inde, etc., c'est qu'elle semble avoir complètement évacué cette dimension, si vous voulez, de grande stratégie. Mmh. Voilà. Au bénéfice d'une lecture démilitarisée des choses, alors même, et c'est aussi un des points évidemment sur lequel j'insiste dans le livre, alors même que si les militaires ont perdu leur monopole sur la guerre, ça ne signifie pas que l'affrontement et la conflictualité ont disparu. Au contraire, ils persistent, ils mutent, et on est face, à mon sens, à des nouveaux types d'affrontements et de conflits.
Bah, on l'a vu d'ailleurs aujourd'hui avec des problématiques sur la data et une guerre. On verra quelle est la finalité, mais sur les États-Unis et sur l'Europe par la Russie a priori. Donc il y a des attaques, il y a des cyberattaques finalement. C'est de ça dont on parle. Et puis ça peut être aussi des attaques par des pandémies. Ça peut être ça aussi. Enfin, on peut l'envisager de cette manière-là aussi, j'imagine.
Bah, je pense qu'on peut pas mettre les deux aspects du tout sur le même plan pour la raison suivante, c'est que les cyberattaques. Bon, le cyber est effectivement aujourd'hui le lieu. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans Guerres invisibles, si vous voulez, c'est que Guerres invisibles, c'est pas un horizon d'attente. Hein. Je suis pas dans une description à la Buzzati, désert des Tartares. C'est-à-dire qu'on est déjà dans ces guerres invisibles et en particulier dans le cyber. La grande différence entre le cyber et le sanitaire, si vous voulez, c'est que le cyber, c'est intentionnel. Vous avez une volonté politique d'acteurs, on va pouvoir y revenir, alors que sanitaire, si vous voulez, c'est non intentionnel. Sauf pour les complotistes, mais moi je considère que c'est non intentionnel au sens où voilà, une épidémie, là aussi on en a connu à travers l'histoire, c'est tous les liens très complexes de passage de l'animal à l'homme, etc. Enfin, on va pas, mais pour moi c'est non intentionnel. Bon. En ce qui concerne le cyber, si vous voulez, c'est aujourd'hui une situation où vous avez à la fois des pirates et des corsaires. Les corsaires, ce sont des acteurs privés qui vont agir pour des États. Les pirates, ça va être des acteurs qui vont agir pour leur propre compte. Et que on est donc, c'est tout le phénomène des rançons par logiciel qui se développe. On a vu les exemples récents d'attaques d'hôpitaux, par exemple, et qui ont comme conséquence assez immédiate d'allouer l'essentiel des ressources de défense à cette protection-là par rapport à des choses interétatiques. La grande difficulté, si vous voulez, dans le domaine du cyber, c'est l'attribution. C'est-à-dire de dire ce que nous avons subi là a été provoqué par tel pays. D'abord parce que les chemins pour arriver peuvent être détournés par des tiers, et que par ailleurs vous répugniez à attribuer, parce que si vous attribuez trop précisément, vous montrez aussi votre capacité à l'adversaire d'identification de ses agissements.
Bien sûr.
Le problème que ça pose en termes ensuite, et c'est ça qui est en train d'évoluer, c'est que on a l'impression que ça ne fait pas de mort. Alors, ça fait pas de mort comme une Kalachnikov avec des corps, contrôle des corps, mais ça peut tout à fait provoquer des choses là aussi invisibles. C'est-à-dire, vous paralysez un hôpital, effectivement, vous ne faites pas de mort, mais vous décalez un certain nombre de choses, vous décalez des soins, voilà. Et c'est tout cet aspect-là qu'on est en train de, que le grand public est en train de découvrir.
Mais qui date pas d'hier, comme vous le disiez juste à l'instant.
Non, pas du tout.
Et c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant.
Parce que si vous voulez, ça date pas d'hier pour une raison assez simple, c'est qu'il faut toujours rappeler la double racine libertaire et militaire de l'ARPANET. Mm-hmm. Depuis, la raison d'être de l'ARPANET, au départ, c'est un projet pour pouvoir continuer à communiquer après une attaque nucléaire. Donc, vous revenez toujours sur cette dimension-là. Et en matière d'innovation, vous avez là aussi, j'y consacre un des chapitres du livre, c'est l'articulation entre ce qui relève de l'innovation militaire et des applications civiles. Mm-hmm. Historiquement, et quand je dis historiquement, ce sont des choses, hein, je commence le chapitre avec un exemple chinois du Xe siècle. Vous avez une innovation qui part du militaire et qui ensuite trouve des traductions civiles. Mm. On est aujourd'hui probablement dans un mouvement inverse, c'est-à-dire qu'on a, on a des innovations qui sont plutôt civiles et dont les usages sont repris par les militaires. Avec un élément extrêmement important sur lequel j'insiste dans le livre, c'est ce que j'appelle le complexe militaro-numérique, c'est-à-dire le lien extrêmement étroit qui existe entre les appareils de défense, entre l'appareil de défense américain et les plateformes systémiques, que l'on comprend globalement parce que c'est un système ouvert, parce que il y a une séparation des pouvoirs et que on peut comprendre les choses qu'on comprend beaucoup moins dans le cas chinois. Et donc, la question, si vous voulez, que ça pose sur le numérique, c'est l'importance prise, et à mon avis très accentuée par la crise sanitaire, par les plateformes systémiques.
Qu'est-ce que vous appelez les plateformes systémiques, pardon?
Bah, les GAFAM, les BATX, voilà, ces acteurs qui brassent des volumes considérables de données individuelles, industrielles, et qui, par ailleurs, ont la particularité de verser peu de dividendes à leurs actionnaires, mais de réinvestir très massivement. Mmh. Et ça, ça a des effets très forts en termes d'innovation.
Bien sûr.
C'est-à-dire, ça se traduit par des politiques d'acquisition de tout type d'innovation. Mmh. Et donc, vous avez aussi, là, il y a un rapport du Sénat américain de décembre 2020, dont je recommande toujours la lecture, qui montre aussi à quel point les plateformes systémiques, par leur comportement, par la position acquise, menace et l'innovation et l'entrepreneuriat tel qu'on les conçoit.
Bien sûr, bien sûr. Et c'est fou, dans la manière dont vous décrivez les choses, j'ai la sensation qu'on parfois on en oublie que finalement la planète Terre, elle n'est pas si grande et qu'on est tous des êtres humains. J'ai cette sensation parfois de me dire, mais en fait, on est tous en train de se taper sur la tête, alors qu'en fait, ce dont il est question, pour revenir à cette question écologique, c'est quand même de la survie du vivant. Enfin, et ça, ça concerne bien l'intégralité de l'humanité, en fait. Et c'est très étrange de mettre les deux choses en parallèle, c'est-à-dire tout ce que vous décrivez avec les cyberattaques, avec les guerres armées, donc le plus ou moins mouvement vers l'écologie versus s'assurer de, enfin, on parle de système extinction de masse, s'assurer qu'on permette à la vie finalement de perdurer sur la planète. C'est bizarre, c'est très étrange pour moi en fait parfois de mettre les deux en parallèle et me dire mais comment ça fonctionne et pourquoi on focus pas, enfin on ne se concentre pas sur la survie du vivant, en fait, tout simplement.
Ouais, je sais pas. Je pense que le. Je sais pas comment vous répondre, si vous voulez. C'est dans la mesure où tout porte à vouloir aller dans votre direction, mm-hmm. mais toute l'analyse montre aussi que le système international et historiquement, ce sont des rapports de domination.
Mais oui, c'est ça.
Voilà. Donc, si vous voulez, le rapport de force, en dépit de la contrainte environnementale, à mon avis, reste structurant comme clé de lecture. Après, pour si vous voyez les choses en termes d'optimisme, moi, je pense que les crises que nous traversons sont effectivement des prises de conscience que nous sommes tous interliés biologiquement les uns aux autres, hein, pour reprendre la formule de Teilhard de Chardin. Mais Teilhard, si vous voulez, il écrit les carnets de guerre pendant la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il est à la fois dans les tranchées et en même temps, il est capable de voir ce qui relie l'humain, quoi. Bon. Donc ça, ce sont des contradictions, si vous voulez, absolument fondamentales que j'aborde pas dans le livre. Je comprends qu'elles soient au cœur de nos réflexions communes. Ce que j'essaie de faire dans le livre, si vous voulez, c'est plutôt un effet de dévoilement, c'est-à-dire de sortir précisément, en utilisant ce terme, je ne veux pas être provocateur, mais je trouve que par rapport à l'approche de la question environnementale, il y a une forme de catéchisme qui s'installe et qui ne permet pas, à mon sens, de saisir le problème dans toute sa globalité et complexité.
Ah, complètement, et moi j'ai trouvé ça enfin, sincèrement, complètement passionnant. j'ai lu le livre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Quoi. C'est passionnant parce qu'effectivement, c'est des visions. Enfin, c'est d'ailleurs le titre. Le bouquin porte bien son titre. Hein. Guerre invisible, c'est vraiment des choses qu'on ne voit pas ou qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas bien ou qui sont traitées dans les médias classiques de manière assez rapide. Je pense à San France Inter, ils vont traiter de la géopolitique tous les jours, mais c'est une session de 4 minutes. Donc, bon, ben, du coup, forcément, on a une compréhension qui est très parcellaire du sujet, et si tant est qu'on s'y intéresse. Hein, donc, c'est extrêmement important.
En fait, si vous permettez là-dessus, Grégory, vous avez vu aussi la construction du livre, c'est que il y a au fond un travail pour identifier les sous-jacents de la mondialisation. Mm-hmm. Mais le livre s'organise autour de deux parties, ce que j'appelle le visible et puis l'invisible.
Complètement.
Bon. Donc, il y a aussi la partie visible. La partie visible, c'est il y a quatre thématiques que j'ai retenues. Il y a les conflits, il y a l'environnement, il y a le commerce et puis les inégalités. Mm-hmm. Donc, c'est quatre substantifs pour décrire ce qui m'apparaît visible. Et puis, il y a la partie invisible, c'est plutôt des processus. Donc, j'ai utilisé des verbes. Il y a le fait de numériser, le fait d'innover, le fait de dissimuler et puis le fait de contrôler. Voilà. Et au fond, pour moi, ce qui, avec ce livre, si vous voulez, le titre aurait pu être, mais ça aurait été trop lourd, ça aurait pu être « Guerre visible et invisible », en fait, hein, ou « Affrontement visible et invisible ». Pour bien montrer qu'il y a des choses, en fait, qui sont... et quand on fait le travail que je fais à l'IFRI, si vous voulez, notre travail, c'est d'analyser ce qui est visible et d'essayer de deviner ce qui ne l'est pas. Bon. Et en réalité, comme toujours, quand on creuse, et ben voilà, on rend visible des choses qui, en première approche, ne le sont pas.
Complètement, complètement. Passionnant. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte.
Ben, je voudrais ouvrir la porte sur... comment dirais-je, un alignement de pièces au sens d'un appartement, si vous voulez, pour dire oui, il faut réarmer. Et c'est un terme qui est très connoté historiquement. Donc, pour moi, c'est une condition précisément pour que l'Europe ne reste pas simplement dans le jeu de puissance, mais soit capable, dans ce jeu de puissance, de porter le modèle dont on a parlé, en particulier dans le domaine, dans le champ environnemental. Mmh. C'est-à-dire, je pense que le droit sans la force n'est rien, et que la force sans le droit est arbitraire, comme disait Pascal, et que donc si on ne réarme pas, si on considère que c'est inutile, d'une certaine manière, on se prive de la crédibilité pour porter un modèle.
Passionnant. Merci beaucoup, Thomas.
Merci à vous.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.